Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Vous êtes dans le pays Vest, dans le sud-ouest de Madagascar.
Et grâce à l'Académie de formation RFI France 24, nous sommes en compagnie de...
Mami Harisu de M3 FM à Majunga.
Nous sommes toujours à Andavadoc, dans le sud-ouest de la Grande Île.
Nous continuons notre reportage sur les activités de l'ONG Blue Ventures qui aide les Vesu, un peuple de pêcheurs, à gérer durablement les ressources de la mer.
Et pas seulement, puisque Blue Ventures les aide aussi à diversifier leurs activités économiques.
RFI,
Blue Ventures ne fait pas seulement de la protection de la biodiversité, mais elle aide aussi les communautés à se développer économiquement, notamment grâce à un projet d'aquaculture. Bonjour Aurélie Naudet.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice de ce projet qui est né quand ?
Il est né à peu près en 2007, donc avec des premières phases pilotes, mais il a vraiment démarré en 2009 concrètement ici. L'idée étant à la fois de réduire la pression sur les pêches et d'apporter des activités alternatives génératrices de revenus, donc à travers la culture d'algues et la production de concombres de mer.
Alors pourquoi le choix de l'algue et du concombre de mer ?
Alors ce sont des activités à la fois très faibles en termes d'investissement coût, des activités qui sont bien adaptées au milieu ici, parce que bon, alors les concombres de mer, on en trouve déjà naturellement dans le milieu ici, même s'ils ont été surexploités. Et c'est une production en termes d'aquaculture qui est assez simple, c'est pas une aquaculture qui est très sophistiquée. Donc c'est relativement facile d'implémenter ça auprès des communautés, à la fois sur les algues et sur les concombres de mer.
Et en plus, il y a des débouchés très importants.
Ce sont deux marchés qui sont très porteurs sur les concombres de mer. Donc, c'est essentiellement du marché asiatique, principalement la Chine, Corée du Sud et Singapour, donc, qui sont très friands de concombres de mer.
C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il n'y en a plus quasiment à l'état naturel parce qu'il est surpêché.
C'est vrai qu'on s'intéresse peu aux concombres de mer. Finalement, c'est un peu moins comme les dauphins, mais en fait, c'est un animal qui est surexploité depuis des années. Quand on regarde un petit peu dans les archives, on s'aperçoit que dès 1900, en fait, on collectait déjà les concombres de mer sur la côte ici. Et donc, ils en trouvent quasiment plus. Et ça faisait partie des principales sources de revenus des pêcheurs vesous ici avec le poulpe. Et donc, l'idée, c'était aussi de... Avec cette méthode d'élevage, on ne prend pas sur la ressource naturelle. Et puis surtout, c'est une source de revenus particulièrement intéressante pour les communautés.
Et les algues ?
Donc les algues sont produites pareil pour l'exportation. Ici, ce sont des algues rouges desquelles on extrait le carrageenan. Ce carrageenan, en fait, on le trouve dans quasiment tous les produits agroalimentaires. C'est un agent texturisant, en fait. Donc, on peut en trouver dans le dentifrice, on peut en trouver dans le Coca-Cola, on peut en trouver dans beaucoup d'aliments. Et pareil, c'est un marché où il y a beaucoup de demandes et qui fait vivre à peu près 30 000 familles dans le monde. C'est vraiment une agriculture qui est au niveau toujours familial, villageois. Partout dans le monde, c'est comme ça.
Et l'objectif, à terme, c'est que Blue Ventures se retire de cette aquaculture et que les communautés s'approprient ce commerce.
Voilà, donc l'idée, c'est que ces communautés deviennent totalement autonomes vis-à-vis de leur production, c'est-à-dire que chacun soit indépendant, qu'ils gèrent leur ferme comme une petite entreprise et qu'ils soient en mesure, parce que sinon, on n'est plus à même de les soutenir. Et puis tout simplement parce que pour la durabilité du projet, c'est important qu'eux, ils puissent être en mesure de pouvoir gérer cette production par eux-mêmes. Donc l'idée, c'est ça, c'est de les former à devenir autonomes vis-à-vis du projet et autonomes vis-à-vis de leur petite entreprise, parce que finalement c'est vraiment ça, hein, c'est gérer une petite entreprise.
Et la personne qui est en charge des communautés juste à côté de nous, ça tombe bien, bon, on va être honnête avec les auditeurs, ce n'est pas complètement un hasard. Josva Razavirasson, bonjour.
Bonjour.
Votre rôle justement, c'est de travailler auprès des communautés pour les aider à développer ces projets d'aquaculture. Combien de villages ou de villageois sont aujourd'hui impliqués ?
Actuellement, on a travaillé avec environ 690 fermiers dans notre région et surtout environ 14 villages.
Qui font du concombre de mer et des algues, moitié-moitié, ou tout le monde fait tout ?
On a juste 30 fermiers seulement qui ont réalisé l'élevage du concombre de mer. Mais la plupart, c'est de la culture d'algues.
La difficulté, j'imagine, c'est qu'il faut former ces villageois à cette nouvelle méthode de culture qu'ils ne connaissent pas.
Oui, bien sûr, mais ce qu'on est réalisé actuellement, on a de 8 environ de techniciens spécialisés dans le parti aquaculture. Ils vont toujours dans chaque village pour assister les fermiers, voir quels sont les problèmes à résoudre.
Et l'autre difficulté, puisqu'on parlait du fait que l'objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes, c'est de leur apprendre à gérer un budget, à faire des économies, à réinvestir. Tout ça, c'est difficile, surtout que beaucoup d'entre eux ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.
Oui, mais c'est pas tout à fait tout le monde, mais quelques-uns seulement qui ne savent pas de lire. Mais on a aussi d'autres stratégies pour former les gens qui ne savent pas de lire ou d'écrire. Donc, on arrive à trouver de la collaboration avec l'ONG CIT, qui sont basés à Tulare. Donc, on a déjà réalisé des formations successives pour pouvoir renforcer la capacité de se former, de pouvoir gérer leur entraînement d'argent et surtout de pouvoir gérer leurs fonds propres.
On voit bien qu'il y a un véritable engouement, Aurélie Naudet. Donc maintenant, on a envie d'aller voir sur place ce que ça donne.
Oui, je vous propose d'aller à Tampoulouvé, donc un de nos principaux villages dans la baie des Assassins, pas très loin d'ici, qui produit à la fois des concombres de mer et des algues, et de rencontrer les fermiers qui pourront vous parler un petit peu de ce que le projet leur apporte et ce que ça a pu changer dans leur vie au quotidien.
Pas très loin d'ici, c'est quand même quelques heures de piste.
C'est vrai, c'est quelques heures de piste ou quelques heures de pirogue, mais les distances sont toutes relatives à Madagascar, donc pour nous c'est pas très loin.
Après plusieurs heures de piste sablonneuse au milieu des épineux et des baobabs, le canal turquoise du Mozambique sur notre gauche derrière les dunes, nous arrivons à Tampoulouvé, un village de 480 habitants à 175 km au nord de Touléar. Et Mamie Arisoa, vous êtes en bonne compagnie.
Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter?
Je m'appelle Richard Badourali. C'est moi le président de l'association d'éleveurs de concombres de mer et des algues à Tampoulouvé, avec 50 foyers.
Comment les revenus des populations ont évolué?
Les revenus de la population ont changé, puisque la plupart des gens ont arrivé à acheter ou bien à renouveler leur pirogue. Ils ont la capacité d'acheter du riz et bien d'autres produits de première nécessité.
Est-ce que les pratiques de pêche ont évolué?
Oui,
la pratique de pêche a évolué dans le sens où, avant, la majorité de pêcheurs ont pratiqué des techniques de pêche destructrices telles que le retournement des coraux, l'utilisation de produits enivrants ou pêche par empoisonnement. Et grâce au projet aquaculture, les gens se convertissent en algoculteurs et puis en éleveurs de concombres de mer, ce qui a réduit ou bien de la diminution de pratiques de pêche dans le lagon sur le plan environnement marin.
Est-ce que cette diversification des activités a permis le retour du poisson?
Oui, exactement. La diversification des activités ont changé beaucoup de choses sur les ressources halieutiques, puisque le stock du poisson a augmenté progressivement du fait que les gens pratiquent l'algoculture ainsi que l'élevage des concombres de mer dans le lagon.
Vous-même, vous êtes fermier. Que cultivez-vous?
Oui, je suis fermier et en tant que fermier, je cultive des algues et je fais aussi l'élevage des concombres de mer. Et c'est la société IOT ou le Indian Ocean Trepont qui va assurer l'achat. Le prix est de 2500 à 5000 ariary la pièce, soit 1 euro à 1,50 euro la pièce. Salegio segni razzara, vulu zepsi milambara, era ni Madagascar, nabaka fremara, nabaka zakabar, nabaka manakar, nabaka tulia.
ces concombres de mer? Eh bien, pour le savoir, il faut prendre la route, 7 heures de piste, 160 km, et aller à Touléar, où une entreprise, Indian Ocean Trepang, s'est lancée dans la production des juvéniles et la commercialisation des concombres de mer.
Radio de France.
Radio France Internationale, RFI.
Ah, merci, monsieur. Merci.
Olivier Aval. Je suis spécialiste au départ de l'aquaculture de crevettes, déjà depuis 40 ans. Et puis très récemment, depuis 3 ans, j'ai intégré le projet IOT, Indian Ocean Trepang, pour concevoir et monter ce projet de production d'holothurie, de scabra, l'holothurie des sables, à Touléar.
Il y a 2 usines aujourd'hui seulement au monde qui se sont lancées dans la production de juvéniles. Une en Australie, dont on ne sait pas grand-chose. Et vous, ici, j'imagine que c'est parce qu'il y a un fort potentiel commercial.
Vu la raréfaction des produits venant de la mer par surpêche dans toutes les zones du monde, les différents pays se sont lancés dans l'aquaculture d'holothurie, dont la Chine, bien entendu, mais avec des espèces tempérées. Et nous, ici, à Madagascar, nous avons lancé cette production d'holothurie scabra, puisqu'elle est originaire, évidemment, de Madagascar, et elle est extrêmement demandée sur le marché.
Donc, elle vaut assez cher.
Elle vaut assez cher, oui. C'est la deuxième espèce en termes de valeur sur le marché mondial. Et là, dans les espèces vivant à Madagascar, c'est l'holothurie scabra et celle qui a le plus de valeur. Donc, nous avons la chance d'avoir la deuxième espèce d'holothurie en termes de valeur sur le marché mondial.
Et elle se vend combien, celle-là ?
Il se vend aux environs de entre 70 et 100 dollars le kilo, une fois qu'il est traité.
Vous en avez déjà mangé ?
Moi, j'en mange, oui, régulièrement. Et aussi, on le fait goûter à d'autres personnes, notamment des acheteurs, pour qu'ils puissent comparer avec des produits qu'ils ont, eux, goûtés en Chine, par exemple. Et jusqu'à présent, le produit que l'on a élevé ici, dans le cadre de IOT ou de Blue Venture, séché par nos soins, et cuisiné par nos soins également, donne toute satisfaction.
Et quel est l'impact environnemental d'une production comme celle-ci, des petits juvéniles jusqu'à la fin du cycle ?
Pour produire cette espèce, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de pesticides, ni d'insecticides, ni d'engrais, et surtout aucun aliment artificiel avec lequel on nourrirait ces animaux depuis le début jusqu'à la fin. Ce sont des animaux qui se nourrissent avec le phytoplancton, avec les algues, avec le sédiment qu'il y a dans les fonds marins. Et donc, il n'y a pas d'impact en termes de rejet de la part de ces animaux. Un autre impact très intéressant, c'est que le fait de mettre des millions d'holothuries en production dans des enclos dans les lagons, naturellement, ces animaux vont pondre. Et donc, puisque c'est en mer ouverte, les œufs ou les larves, les embryons, vont se propager dans le lagon et devraient, à terme, participer au repeuplement naturel de ces lagons. Puisque les holothuries ont quasiment disparu par surpêche de toutes les côtes, pas seulement de Madagascar, mais de très nombreux pays.
En étant d'Avadouac, vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, soit bibigué.
Salam. Salam.
Retour en Davadoc, au loin des Blue Ventures, accompagne les pêcheurs vises dans la gestion de leur environnement. La radio est d'ailleurs l'un de leurs outils pour sensibiliser les villageois jusque dans leur maison.
Nous sommes en fin d'après-midi, le soleil se couche sur Andavadoc. Dans une cour, des hommes jouent au domino. Juste en face, les villageois se pressent dans l'unique pièce sombre de l'une des maisons en bois. Et oui, il n'y a pas d'électricité. Ils viennent, comme tous les vendredis, écouter sur le poste à pile les émissions produites par Maosu Lahatse. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe là?
Mais ça, c'est le groupe d'écoute. On va se préparer avant de diffuser les émissions théâtre radiophonique.
Et donc là, les hommes et les femmes sont rassemblés dans le salon d'une maison autour du poste de radio. Ils attendent la diffusion, c'est à 17h le vendredi. Ce sont des petites scènes de théâtre que vous écrivez vous et qui sont jouées par des acteurs. Ensuite, c'est envoyé à Morombé pour que ce soit diffusé ici dans toute la région. Mmh. Il y a plusieurs thèmes à chaque fois?
Oui, parce qu'un épisode, c'est l'ensemble de plusieurs scènes. Par chaîne, on a un message. Par exemple, le message avec la protection de l'environnement, la santé. Et il y a aussi un message avec la santé de reproduction, planning familial et le VIH-SIDA.
Et aujourd'hui, la scène sur les enjeux environnementaux, c'est sur quel thème ?
Et aujourd'hui, c'est l'importance des récifs coralliens par rapport à la ressource naturelle.
Donc l'idée aujourd'hui, c'est de leur expliquer qu'il ne faut pas détruire les récifs coralliens parce que ce sont les nurseries des poissons.
Oui, c'est ça le message avec l'éducation environnementale. Yeah.
Et le principe, donc, c'est que les personnes écoutent la radio tous ensemble et après, il y a des agents communautaires qui discutent de ce qu'ils viennent d'entendre pour s'assurer qu'ils aient bien compris les messages.
Oui, l'agent communautaire fait une discussion après la diffusion des pièces théâtrales.
Et combien de villages, combien de foyers écoutent cette émission de radio ?
Jusqu'au maintenant, c'est 30 groupes d'écoute, 28 villages.
Bon, ben, on n'a plus qu'à attendre que l'émission commence.
Oui, on attendra cela. Merci.
Tout le monde parle pas malgache. Je demandais à Faustinato de nous aider.
L'émission parle sur l'importance des mangroves ainsi que sur le récif corallien. En particulier sur les forêts de palétuvé ou le mangrove, il y avait un homme qui n'est pas habitué à assister à une réunion villageoise sur la sensibilisation communautaire, durant laquelle cette réunion a expliqué le rôle biologique et écologique de mangrove en tant que zone de nurserie ou de maternité de beaucoup d'espèces marines, ainsi que zone de protection pour le ruissellement de l'eau durant la saison pluvieuse, et aussi une zone de protection du littoral contre la grande marée vers la plage. Sa femme, qui a assisté à cette réunion, a expliqué à son mari qu'il serait important de raisonner la coupe de mangrove qui est essentielle dans les futures générations. Son mari a été convaincu de réglementer sa coupe de bois de palétuvier, ainsi que d'autres pratiques de pêche destructives telles que le retournement des coraux, l'utilisation de poisons dans le lagon sur le complexe récifal et bien d'autres enjeux de pêche non conservatifs.
L'émission est terminée. Mansoa est en train d'expliquer aux femmes qui écoutaient la radio et aux quelques hommes aussi rassemblés ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire que l'agent communautaire va décrypter avec eux l'émission et essayer de répondre aux questions qui étaient posées dans cette émission et voir si leurs pratiques de pêche sont en accord avec les messages véhiculés dans l'émission. Mamie, la différence entre toi et moi, c'est que moi, là, je ne comprends rien parce que je ne parle pas malgache. Qu'est-ce que l'agent communautaire de l'ONG Blue Ventures est en train d'expliquer aux populations ?
L'association Blue Ventures donne le moustiquaire, mais les gens transforment en filet des poissons, c'est le problème.
Oui, transformer les moustiquaires en filets de pêche, c'est sûr que ce n'est pas une très bonne idée, surtout que les moustiquaires, c'est des petites mailles très fines, donc ça prend les petits poissons. Mansoa, la réunion est terminée là, et vous avez à côté de vous l'agent communautaire qui a animé cette réunion, vous pouvez nous la présenter ?
C'est Madame Macrine Cynthia.
Salama ?
Salama.
Alors, vous avez donc discuté avec la population après la diffusion de l'émission. Comment les gens ont réagi face à cette sensibilisation sur la mangrove et les méthodes de pêche ?
Généralement, je trouve que, vu les menaces que pèsent sur le mangrove et sur le récif corallien, la plupart des gens ont constaté qu'il y a une diminution des ressources en général. Et nous, on fait de cette sensibilisation à plusieurs reprises. Et par conséquent, certaines personnes ont saisi l'impact négatif ainsi que l'importance de la préservation des mangroves ainsi que des récifs coralliens. Et actuellement, la plupart des gens sont conscientisés sur cette importance d'arrêter ce qui est pratique destructrice.
Donc ça marche, ces émissions de radio ?
Oui, effectivement, l'émission radio marche très bien puisque nous sommes un groupe d'écoute qui se réunit dans une maison et nous sommes vraiment très concentrés à l'écoute de cette émission.
Merci.
Mamie, là, c'était la sensibilisation des grands à travers l'émission de radio. Et maintenant, on va s'intéresser au travail que Blue Venture fait avec les enfants.
Oui, tout de suite, on va au bureau des Blue Ventures pour voir comment les enfants sont sensibilisés aux enjeux de l'environnement.
Bonsoir, monsieur le professeur.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous apprenez aux enfants ?
Notre apprentissage se focalise essentiellement sur la sensibilisation environnementale, sur le savoir-vivre en tant qu'adolescent et aussi sur la vie quotidienne en général.
Sur la question d'environnement, qu'est-ce que vous leur apprenez ?
En particulier sur l'environnement marin, dont je fais un exemple sur une thématique, en l'occurrence sur le récif corallien, sur la vie des espèces marines qui est très recherchée par le pêcheur, et aussi sur comment pêcher durablement les produits halieutiques. Il y a aussi la sensibilisation environnementale sur de parties côtières ou terrestres. Là, on les apprenne l'importance de la mangrove et aussi sur le forêt épineuse, dont notamment le baobab. Comment les entretenir, comment le faire revivre longtemps, quoi.
Quand les rencontrez-vous?
Les enfants viennent ici dans cette salle tous les samedis et durant cette séance, tous les samedis, on fait cette sensibilisation à différentes échelles. Ça dure 2 heures de temps.
Finalement, vous préparez le futur ?
Oui, effectivement, nous préparons l'avenir de ces enfants et globalement, nous faisons cette sensibilisation pour les enfants ainsi que pour leurs parents ainsi que avec le villageois de tout ce qui est aux alentours d'Andavadouk.
Merci beaucoup et bravo.
Nous vous remercions pour cette belle interview.
Le travail de l'ONG Blue Ventures est donc accepté et reconnu par tous les villageois.
Les ressources naturelles de cette région du sud-ouest de Madagascar sont entre de bonnes mains et j'aimerais bien qu'il y ait la même action dans ma région au nord à Mahajang.
C'est la fin de cette émission.
Merci Anne-Cécile et François pour cet échange. Et j'ai un petit message pour les Mazingais. Monsieur Drabitsa, quand on fera une émission, Zala, à Manarakandrei.
Merci mamie, à bientôt.
À bientôt Anne-Cécile.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à Faustinato pour ses traductions et sa bonne humeur, à Kate, Aurélie et Paul-Philibert Rakadji pour la logistique et à Adéra Manès, le meilleur des chauffeurs. Le programme de la mobilisation des radios malgaches pour la préservation de l'environnement était financé par l'Union européenne. Vous pourrez découvrir ces reportages en images sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.